Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens sur la fréquence de la paix. Roger Tsingy, ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a été arrêté et transféré à la prison des Makala. Selon le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il lui est reproché d'avoir illégalement détenu 6 véhicules 4x4 de cette institution. Entre-temps, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, promet de rendre publique prochainement la liste de tous les responsables de l'État et du gouvernement sortant qui ont détourné les biens publics, dont les véhicules. Alors comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 6330 ou encore au 09 97 06 49 69. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook où l'ensemble des compatriotes sont en train d'interagir. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Willem Lungamba, Nico Kalambay, sous la supervision de Martin Sebojagwe. Ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Merci de rester à l'écoute de Radio Capi.
Parole aux auditeurs, pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Maître Georges Kapamba, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne déjà, c'est le début. On prend Ngandou qui est à Kinshasa. Maître Ngandou, bonjour.
Bonjour, je dis Gérard Longhomme.
Quel est votre commentaire?
Bon, nous savons que il est vrai qu'il peut y avoir des comptes à rendre, hein, des comptes à rendre, parce que c'est pas l'unique cas. Il y a eu dans le passé des cas pareils, mais la justice ne s'est pas impliquée dans les cas d'espèce. Comme c'est un opposant, c'est un ancien opposant, et lorsque la justice agit dans ce sens-ci, il peut y avoir beaucoup d'interprétations là-dessus, mais comme il y a eu ouvertement un cas de méconduite à l'encontre de ce métier, nous ne pouvons que féliciter cette démarche-là. Mais comme la tendance actuelle est de réprimer les soi-disant criminels dans tous les aspects, moi je pense qu'il faut pas que ça soit déséquilibré. Il faut que la justice, notre justice qui dans les cas d'espèce est l'acteur principal, devrait se comporter à modèle. Modèle, ça veut tout simplement dire ne pas attendre que des cas où les politiciens qui veulent se rendre compte les simples cas qui, je peux dire, qui sont motivés par les aspects politiques.
Mais oui, mais Ngandou, vous motivez votre intervention sur quoi? Parce que quand vous parlez de compte à rendre, qui rend le compte à qui?
Oui, mais vous savez, il est vrai qu'il a détenu le véhicule. Qui avait déploré ces cas-là? Peut-être ce sont ceux qui l'ont...
C'est l'Assemblée provinciale, l'équipe qui vient d'entrer.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Lorsqu'ils insistent à ce que les messieurs soient arrêtés, parce que ça pouvait aussi arriver, ça pourrait être résolu à l'amiable, à mon avis.
Non, mais ça, c'est un problème d'État. Il n'y a pas de raison de que soit réglé à l'amiable. Et dès lors qu'il a été en détention provisoire, il a été entendu sur PV. Bon, en tout cas, nous ne sommes pas dans les secrets, mais les informations que nous avons sur les 6 véhicules, il a restitué 2 ou 3, quelque chose comme ça, et les autres se sont volatilisés dans la nature. Et toi, en tant qu'avocat, vous savez quand quelqu'un passe aux aveux.
Oui, je n'en disconviens pas. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne suis pas pour lui. Et pour cela, j'ai dit des pareils cas, parce qu'on en a vu dans le passé. Hein. On a vu Samy Badi.
Oui, mais ma question, c'était, quand vous parlez de comptes à rendre, vous faites allusion à quoi concrètement? Parce que il y a eu des plaintes et il y a eu la vérité qu'il y avait des véhicules qu'il gardait, qu'il a pu restituer.
Oui, oui. Moi, quand j'ai dit les comptes à rendre, mon cher, moi, je suis juriste. Je sais ce que je suis en train de dire. Mais quand j'ai dit les comptes à rendre, je dis pas que c'est dans ce sens-là. Mais j'ai dit que ça pouvait apparaître comme cela. Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble, disons, les bureaux entrants qui a jugé bon que ça puisse, la chose puisse prendre cette ampleur-là.
Merci beaucoup.
Et là, les gens.
Merci beaucoup, Ngandou. Merci beaucoup. Alors, on va prendre Olivier qui est à Kikwit. Olivier, bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne d'Olivier. Alors, on revient à vous. Maître Georges Kapiamba, vous êtes avec nous en ligne.
Oui, je suis avec vous,
Gilles. Ouais, une fois encore, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà. Alors, comment avez-vous commenté cette arrestation de l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Parce que vous avez, dans votre association à Cage, le temps de monitorer, de faire des monitorings sur les différents cas de détournement. Et pourquoi beaucoup de cas d'injustice sociale même, en même temps?
Tout à fait. C'est vrai, lorsque l'information est rendue publique par les billets du bureau du commissaire provincial de la ville de Kinshasa, nous avons immédiatement salué publiquement cet acte, c'est-à-dire l'interpellation, la détention du concerné, parce que ça faisait très longtemps que dans ce pays, des hommes et des femmes engagés pour la protection du bien commun, du patrimoine de l'État, ne faisait que interpeller les autorités sur les abus que commettaient certains responsables des services de l'État, des institutions publiques, qui, à l'entrée dans leurs fonctions, recevaient de l'État un certain nombre de biens pour leur faciliter l'exécution de leurs charges, mais à la fin de leur mandat, ils se décidaient de les détourner. Et ces gens sont restés pendant beaucoup d'années dans l'impunité la plus totale. Donc, ce qui s'est passé contre M. Nsingh, Roger Nsingh, l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a constitué pour nous un acte fort, un signal lancé aux autres qui continuent à détenir les biens de l'État ou qui avaient l'intention de le faire pour qu'ils sachent que finalement l'État se réveille. Les Congolaises et les Congolais, qui sont les vrais copropriétaires de ces biens, ne vont plus les tolérer. Voilà pourquoi nous, dans notre action, nous sommes directement réorganisés pour accompagner la police nationale, la justice, les nouvelles autorités politico-administratives de notre pays à sévir contre les auteurs de ces comportements.
Alors, vous avez promis très prochainement de rendre au public une liste de tous ces responsables de l'État et du gouvernement. Alors, est-ce que une idée, quand est-ce que vous avez eu le temps de minorer cette liste et prendre en compte quelle période concrètement?
Alors, nous travaillons sur cette question depuis plusieurs années. Nous avons beaucoup écrit pour signaler aux autorités, principalement à la justice, beaucoup d'actes de détournement des biens publics qui ont consisté soit dans le détournement des véhicules. Il y a même d'autres anciens responsables ou des mandataires de l'État qui ont détourné même des maisons qui étaient mises à leur disposition pour servir des logements de leur fonction. Il y en a qui ont même perçu des montants, des sommes d'argent importantes pour être affecté au paiement des salaires, rémunération des autres agents ou honorer les prestations que l'État a bénéficié, qui ont détourné. Alors, nous avons, pour le moment, pris la période allant de novembre 2018 jusqu'à ce jour, et nous sommes suffisamment avancés. Nous avons, à ce jour, une liste de 43 cas. Et incessamment, là, nous allons les rendre publics, mais je peux déjà vous informez vos auditeurs que nous avons déjà saisi le procureur général après la Cour de cassation contre un groupe d'agents qui se permettent, alors qu'ils sont déjà élus comme sénateurs, ils continuent encore à percevoir l'argent au nom de l'État parce qu'ils avaient des fonctions publiques et ils continuent à se comporter de cette manière. Pour nous, il s'agit encore d'actes de détournement et nous devons aider l'État à stopper cette hémorragie.
Est-ce que dans ces 43 cas que vous allez évoquer dans votre liste, figurent également des grosses légumes, si on peut les appeler ainsi? Parce qu'un auditeur parlait tout à l'heure, Roger Tsingy, bon, pour lui, il estime que ce n'est pas si grand qu'on lui croyait. Si on doit se référer de la liste de Luzolo Bambi, qui parlait même des gens qui étaient tout autour de l'ancien chef de l'État, bon, il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Est-ce qu'on peut faire confiance à votre liste?
Exact. Sur notre liste, nous avons effectivement ces gens-là. Nous en avons une dizaine qui ont détourné des véhicules. Il y en a, par exemple, quelqu'un qui était tout autour du chef de l'État, contre lequel nous avons eu des informations très sûres que nous avons vérifiées, qui établissent clairement qu'il garde devant lui 5 jeeps jusqu'à ce jour. Et ça y est, chez lui. Sur les 5, il a déjà fait remplacer les plaques sur 3. Donc voilà, nous allons nous.
C'est opportun aujourd'hui qu'il y ait une commission pour récupérer tout cela? Parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, il y a quelques jours, le président de la République a décidé de la mise sur pied d'une commission Tshisekedi pour récupérer des maisons et autres biens de l'État. Est-ce que vous allez travailler en collaboration avec cette commission?
Oui, nous attendons de l'État toutes sortes d'initiatives, mais pour le moment, comme il n'y a pas de commission spéciale créée déjà par la plus haute autorité de l'État, nous, ce que nous faisons, c'est de pousser la justice. Je venais de vous parler ici d'une plainte formelle, d'une dénonciation que nous avons introduite la semaine passée, c'était jeudi, auprès de l'Office du procureur général, auprès de la Cour de cassation, contre un groupe d'agents, de hauts cadres qui avaient des fonctions importantes, mais qui se sont fait élire comme sénateurs, qui malheureusement continuent encore à percevoir des émoluments sur base de leurs anciennes fonctions dans l'administration publique. Donc voilà un cas typique de détournement, mais nous pensons, comme vous le dites, qu'une commission ad hoc serait la bienvenue, de manière à ce qu'ensemble nous puissions y travailler, produire un document qui va servir de base pour déclencher des poursuites judiciaires contre tous ces détourneurs de biens publics.
Est-ce que vous pensez que dans cette démarche, ce serait possible d'éviter le règlement des comptes, au fait?
Non, c'est-à-dire que moi, j'entends des gens, pour essayer de protéger ou de s'autoprotéger, il recourt à cet argument pour dire règlement des comptes. Non, la justice est là pour interpeller les gens. Et lorsque vous êtes interpellé, ça ne veut pas directement dire que on va vous arrêter, on vous met en prison. On peut vous interpeller, vous inviter en vous posant des questions. Pour dire, par exemple, monsieur ou madame, nous avons reçu des informations faisant état de la détention par vous de tel bien qui avait été mis à votre disposition à la suite de vos charges ou pour vous permettre d'exécuter vos fonctions telles. Est-ce que vous pouvez nous fournir plus d'informations? Qu'est-ce que ces biens, à quoi ces biens ont-ils servi? Ces biens se trouveraient où? C'est une façon pour les services de l'État de vérifier une information. Il ne faudrait pas que ceux qui se sont déjà compromis puissent directement dire le fait de les inviter ou de les interpeller pour répondre. En rapport avec ces biens-là, constituerait
un
règlement de compte. Quel règlement de compte? L'État a les droits. Et tous les Congolais, toutes les Congolaises, nous avons tous les droits de savoir, par exemple, qu'est-ce que devenu X véhicule, Y logement qui avait été mis à la disposition des X ministres à la fin de ses fonctions. Donc ça, c'est notre droit. Et lorsque nous avons des informations établissant que ces biens ont été détournés à des fins personnelles par l'ancien ministre, l'ancien mandataire ou ancien agent public de l'État, il est de notre droit de porter ces informations à la connaissance de la justice, de la police, pour que les biens soient récupérés, remis dans le patrimoine de l'État.
Oui, est-ce que votre démarche, pensez-vous que cela trouvera un écho favorable, dès lors qu'on pense à l'échec qu'on a accusé dans l'initiative qu'on a appelée OBEMA, Office des biens mal acquis?
Non, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les gens fassent la confusion. Et puis une mauvaise comparaison. L'Obema a échoué parce que les initiateurs de l'Obema, ainsi que les animateurs qui avaient été nommés pour permettre à l'État de recenser, identifier les biens publics qui étaient détournés, ces gens s'étaient mal comportés. Ils n'ont pas respecté la procédure, les lois de la République. La plupart de ces animateurs ont, après avoir récupéré les biens de l'État, les avaient soit vendus ou s'en étaient appropriés. Voilà pourquoi l'Obema a échoué. Mais maintenant, là, nous disons que la justice a comme mission de sévir ceux qui violent les lois de la République. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que l'article 34 de la loi organique sur les services publics de l'État dit clairement que nul ne peut détourner les biens publics à des fins privées ou politiques. Mais tous doivent respecter cette disposition. On met à votre disposition des biens où vous récupérez les biens de l'État en son nom, vous voulez affecter directement à votre
compte privé.
À ce moment-là, vous exposez à des poursuites, et lorsque la justice vous poursuit, c'est pour à la fois vous faire sanctionner par rapport à ces comportements infractionnels, antisociaux, et aussi aider l'État à pouvoir récupérer ses biens et lancer une fois pour toutes les messages à l'ensemble de la population que cet acte est prohibé et que celui qui tenterait encore de le faire subira le même sort que celui qui est concerné par ces poursuites aujourd'hui.
Maître Georges, nous vous gardons en ligne. Il est temps d'écouter les auditeurs également qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Maître Sonville est à Lubumbashi, Ernest à Matadi. Maître Sonville, bonjour.
Bonjour, Monsieur JR. Bonjour à Maître Georges Kapiamba. D'emblée, j'épouse cette initiative puisque ce n'est pas seulement le chef de l'État lui-même qui va déboulonner cette dictature, cette mauvaise gouvernance. Il faut aussi le concours de tous les Congolais en dénonçant ceux-là qui se sont enrichis illicitement. Et nous en avons beaucoup de cas que nous allons saisir à la justice pour que la justice puisse faire son travail. Au-delà de ça, il faudrait prendre le cas de l'Obama et avec le régime actuel, que ceux-là qui avaient initié l'histoire de l'expansion des biens de l'État, c'était une révolution. Maintenant, nous avons un pouvoir assis sur la démocratie. Et nous devons respecter le droit de tout un chacun qui sera interpellé à la justice pour qu'il puisse présenter ses moyens de défense. Mais aussi longtemps qu'il est incriminé, il doit être arrêté. Plus question de grosses légumes, comme j'ai compris là, vous avez dit de grosses légumes, non. Même ici au niveau de Lubumbashi, au niveau du Katanga, vous voyez des fonctionnaires de l'État s'enrichir au détriment du trésor public. Vous voyez des bâtiments qui sont en train de pousser comme des champignons. Je ne préfère pas citer quelqu'un, mais j'interpelle la justice congolaise. Elle est là pour des recherches, des infractions. Elle est là pour interpeller. Mais ce détournement, c'est faux à n'importe quel niveau, à ciel ouvert. Et ce n'est pas seulement les agents de l'État. Il y a aussi des magistrats. Comment est-ce que vous allez comprendre un magistrat qui a 400 dollars, 1000 dollars, mais il a un véhicule qui vous coûte 14 000 dollars? Ça dénote quoi? Ça atteste la corruption, puisque où est-ce qu'il a eu cet argent? Il n'est pas commerçant. Comment est-ce qu'il peut s'enrichir comme ça? Si vous venez ici à Lubumbashi, vous verrez les chefs de division, ceux-là qui travaillent au péage, c'est là où il y a le coulage des recettes de l'État. Là, je ne parle pas comme ça. D'ailleurs, j'emboîte l'initiative du président honorable Kumba Kumwanza, le président national de l'UNAFEC. Il avait demandé au chef de l'État s'il peut instituer un audit de peut-être 5 ans de ceux-là qui sont passés au pouvoir, pour que nous puissions voir clair. Aujourd'hui, nous avons besoin de la réforme. Il y a des jeunes qu'on est en train de recruter pour envoyer en Égypte. Ça demande de l'argent. Mais d'où va venir cet argent? Quand même certains organismes peuvent nous venir en aide. Mais nous devons d'abord être nous-mêmes autonomes.
Maître Sonville, il y a un auditeur qui se pose la question. Il dit, mais on a senti à un certain moment vers les années 90, lorsque Étienne Tshisekedi a accédé au pouvoir en tant que Premier ministre, le fait d'avoir simplement dit et demandé à tous ceux qui détiennent les biens de l'État de les restituer. On a vu au niveau des STA, des gens remettre les véhicules en masse, et c'était la force de la parole. Alors aujourd'hui, est-ce que considérons qu'il y a un changement de régime, est-ce que dans la volonté politique, les gens ne peuvent pas de manière délibérée, de manière volontaire, d'aller remettre ce qu'ils ont gardé des biens de l'État?
Monsieur Gilles, c'est une préoccupation qui est pertinente. D'aucuns croiraient qu'avec leur famille, c'est ça, c'est le FCC, comme ils ont pris le Sénat, l'Assemblée, tout ça, ils vont profiter de cette humilité. Ça ne se fera pas ainsi. Puisque le chef de l'État, son excellence Antoine Tshisekedi, a été clair. Nous avons fait une coalition, soit une cohabitation. Ce n'est pas pour autant que nous allons demeurer dans les antivaleurs. Si ces gens-là ne sont pas interpellés, la justice doit faire son travail.
Non, mais Maître Sauville, il faut préciser, il n'y a pas que le FCC qui a dirigé. Il y a une bonne partie aussi de l'opposition qui a été dans l'ancienne majorité avant même de quitter et qui a occupé des postes importants qui peuvent aussi être concernés par les cas monitorés par la CAJ, par exemple, ou encore d'autres personnalités.
De toute façon, moi, je ne trouve pas d'inconvénient, mais les cas qui sont connus à ma connaissance, par exemple, je peux étayer une illustration. Les gens-là qui ont pris l'argent au SPI, les gens-là, les caciques-là de M. Kabila, là, même Kabila lui-même, il a pris l'argent au SPI, ils doivent restituer cet argent.
Non, je crois que Sauville, si nous lisons cette publication des FPI, vous ne verrez jamais les noms de Joseph Kabila là-dessus. Donc je crois que je ne vous ferai pas dire c'est que parce que moi j'ai lu le texte, on a fait des émissions sur ça, son nom ne figure pas.
De toutes les façons, même si son nom ne figure pas.
Donc il ne faut pas dire des choses que nous ne maîtrisons pas.
Oui. Ok, c'est sa famille politique qui a bénéficié de l'argent des FPI. Les FPI, c'est le fonds de promotion pour l'industrie. Nous connaissons ceux-là qui ont pris l'argent pour aller faire des voyages de tourisme au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, mais ces gens-là doivent restituer. Et d'ailleurs, j'interpelle aussi la conscience de Maître Georges Kapiamba pour s'en saisir aussi de ces cas-là, parce que ces cas-là se sont déroulés surtout au niveau de Kinshasa. Il y a même des Libanais,
Voilà. Donc pour dire que c'est vraiment une machine, grosse machine, il y a beaucoup de gens. Mais je crois que nous serons tous tentés de voir cette liste qui sera rendue publique par la CAJ, qui évoque déjà 43 cas. Donc je crois nous allons nous intéresser à ça prochainement. Merci beaucoup Maître Sauville. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour Ernest.
Bonjour JR et bonjour à Maître Kapiamba. Je crois que Georges Kapiamba dans l'idée que j'ai toujours cherché à coordonner. Si vous me ferez plaisir après l'émission, que nous ayons des contacts personnels entre lui et moi après l'émission. Mais d'emblée pour les thèmes de ce matin, je crois que la machine fonctionne comme le corps humain. Et je crois que depuis que le président Kabila était au pouvoir, il y avait une disposition qui disait que toute personne qui entre en fonction devrait présenter à la justice la liste de ses biens qu'il a. Et à la fin de son mandat, il doit aussi présenter ce qu'il a gagné pour voir est-ce qu'il y a eu une richesse illicite ou c'est vraiment conforme par rapport à ce qu'il gagnait et par rapport à ce qu'il mettait à côté et il essaie de constituer une fortune de 30% ou de 40%. Ça, c'est bien. Mais ce qui étonne un peu, cette disposition n'est pas appliquée à la lettre. Nous avons des autorités à travers toute la République. À la fin, lorsque quelqu'un vient au pouvoir, il entre en fonction, comme par exemple le président de la République, comme le gouverneur de province, comme le ministre. Ces gens qui viennent, ils les rencontrent au sein des ministères, au sein de la présidence, au sein du gouvernorat, les fonctionnaires qui sont en permanence, comme à l'Assemblée nationale, le secrétaire général. Mais ceux qui viennent à temps pour 5 ans et puis ils partent, il y a des fonctionnaires qui sont là en permanence. Ces gens, il y a au sein de ces institutions, il y a le service des patrimoines. On sait que tel nombre de véhicules ont été donnés à des gens qui travaillent pour leur permettre de faire des mouvements et de faire d'accomplir correctement leurs tâches. Mais à la fin de l'exercice, ces fonctionnaires de l'État chargés des patrimoines devraient aussi, les jours de remise et de prise, présenter tous ces biens pour qu'ils soient incorporés dans la liste des PV de remise et de prise. Ce qui n'est pas le cas. Je vous donne un autre petit cas. Au niveau de l'ONATRA, par exemple, les gens qui étaient dirigeants de l'ONATRA, et puis ils ont donné des logements aux travailleurs. Mais parce que vous êtes numéro un chef, vous vendez la parcelle de terrain vide à côté qui est réservée pour la respiration des terrains, et ainsi de suite. Mais ces gens aussi qui vendent le terrain et récupèrent la maison de l'entreprise, ils n'ont jamais été inquiétés. Et vous avez l'exemple de Tshisekedi à l'époque, Premier ministre, il a simplement dit de remettre les biens de l'État. Alors, quelle est cette magie que ces gens qui faisaient à ces gens le tremblement de terre pour qu'ils remettent les choses, et aujourd'hui, où nous avons eu les têtes se dire à l'entrée présenter les biens, à la sortie présenter sur les biens. Mais pourquoi les gens sont fatigués?
Oui, mais Ernest, ce qui est
une complicité au sommet des systèmes.
Voilà. Alors parce que vous évoquez,
les gens ne s'inquiètent pas, ne se dérangent pas.
Oui, parce que vous évoquez cette complicité. On ne sait pas, selon une information à notre les informations à notre possession, Roger Tsingy, qui a été entendu sur PV, a reconnu qu'il avait effectivement pris ses véhicules, mais il a restitué deux ou trois, et les trois autres, il a même cité quelques personnalités politiques qui détiennent. Mais entre-temps, ces gens-là, ils sont aujourd'hui sénateurs, députés nationaux, ils jouissent aujourd'hui de l'immunité. Mais qu'est-ce qui va se passer pour qu'ils soient aussi entendus ou encore qu'ils puissent répondre de leurs actes?
Non, vous voyez, être sénateur ou ministre, et par rapport au bien de l'État, là, on doit faire la part des choses. Ce n'est pas parce que tu es devenu sénateur et qu'il faut remettre les biens de l'État et que tu vas brandir l'immunité. Je crois que la loi doit être dure pour tout le monde. C'est comme on a dit, son vide. Ces histoires et ces expressions que nous inventons au Congo, grosses légumes, petits légumes. Mais c'est nous les petits peuples qui contribuons pour que ces gens puissent gagner de l'argent. C'est nous les petits peuples qui contribuons. Parce qu'ils ne payent pas leurs taxes. On pique tout sur nous les petits peuples. Et lorsque nous donnons les biens à ces gens pour s'intervenir, à la fin, ils doivent être élégants de remettre ces histoires à la République. Ils doivent aussi avoir le souci que celui qui viendra me remplacer, il aura aussi besoin de ça. Mais si c'est chaque fois qu'il faut renouveler les véhicules...
Bon, il y a quand même un problème. Merci beaucoup, Ernest. Merci beaucoup. Voilà, Ernest, il y a d'autres personnes qui attendent également. Bon, dommage que même des moquettes du bureau, quand certains ministres quittent, on l'a vu, qui sont partis avec, on ne sait pas. En tout cas, c'est parfois très ridicule. Merci beaucoup. Jean-Robert, vous êtes à Mbandaka. Bonjour.
Bonjour. Je suis Jean-Robert, je suis en Mbandaka. Je voudrais poser ma préoccupation, je l'adresse à Maître Georges Kapiamba, l'invité. Je ne comprends pas. Lorsque vous vous attardez au bien de l'État, je suis très content pour l'émission, pour ce que vous reprochez, les gens ne peuvent pas détenir le bien de l'État, mais je pose ma question par rapport au Palais des Marbres à Kinshasa. Le Palais des Marbres appartient à qui? Pourquoi ne pas parler aussi de ça? Ça fait partie du patrimoine de l'État. Et la résidence actuelle du chef de l'État, pourquoi vous ne voulez pas en parler? J'ai vu le président Félix Tshisekedi voyager avec le vol commercial. Alors, l'avion de l'État que le président Kabila a utilisé, donc constitue quoi? Ça appartient à qui maintenant? Voilà.
Voilà. Merci beaucoup Jean-Robert pour une partie de la réponse, en attendant que Maître Georges vous donne exactement des précisions. Notez que la RDC n'a jamais eu une maison présidentielle ou carrément le président, à partir même de Kasavubu, il n'y a pas eu de maison de près d'un président de la République. Le président Mobutu à l'époque, sa première maison, tout le monde le sait, c'est à Bandal, à Bandalungwa, où si vous allez, vous trouverez la maison privée de président de maréchal Mobutu. Et ailleurs, il n'y a jamais eu une maison. Mobutu a réfectionné l'Union africaine, qui était d'ailleurs construite pour autre chose, mais il avait habité à l'époque par manque d'une maison présidentielle qu'aujourd'hui occupe Félix Tshisekedi. Mais pour d'autres, je crois que notre maître Georges pourrait vous donner des précisions. Mais pour le GLM, l'information que nous avons, c'est une maison aussi privée. Donc là, les débats, peut-être nous n'entrerons pas en profondeur. Merci beaucoup. Alors Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Gérard, bonjour Maître Kapiamba, votre invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Quelle est votre contribution, Félicien?
Moi, je dis que ce que nous sommes en train de déplorer, ce sont des antivaleurs que nous avons eues depuis la Deuxième République jusqu'à aujourd'hui. Et le comportement de celui dont on parle aujourd'hui, l'ancien président Tsingy de l'Assemblée provinciale, tout le monde a vécu ça, l'arrogance qu'il a affichée quand on lui demandait de restituer les biens de l'État. Parce que dans ce régime-là, c'est comme ça que les gens se comportent, et l'impunité, et tout ça, ils se protègent entre eux, et il est resté comme ça. Maintenant que les choses ont changé, et voilà que ça nous crée des problèmes. Donc, mais comment nous allons faire avec tous ces gens-là? Parce que quand le président de la République a été aux États-Unis, il a parlé de déboulonner la dictature avec ses antivaleurs, telles que la corruption. Mais il a rectifié aussi en disant qu'il ne va pas faire la chasse à l'homme, mais il va y avoir une ligne de démarcation. Mais il faut que cette ligne de démarcation qu'on dise c'est à quel moment, sinon il y aura des problèmes d'injustice. Il y a des ceux qui seront poursuivis, d'autres qui ne seront pas poursuivis. Peut-être que M. Ntsingi va bénéficier de cette ligne de démarcation, il va appartenir au passé comme les autres, parce que tel que les auditeurs sont en train de citer, il y en a beaucoup de biens de l'État qui ont été détournés, et il y en a beaucoup de choses à faire. Alors, s'il n'y avait pas la chasse à la sorcière, s'il n'y a pas la chasse à l'homme, si on va faire une ligne de démarcation, il faut qu'on sache ça va commencer à quel moment, et puis on crée, ce sont des commissions, ce sont quoi, et qui vont commencer à travailler sérieusement, et on remet l'ordre dans la maison. Moi, je pense que c'est là le problème.
Voilà, merci beaucoup Félicien. Je crois que à un moment d'ailleurs, il y a 2-3 ans ou même 4 ans, nous préparions l'émission Parole aux auditeurs avec madame Bafalanga qui était à l'époque secrétaire générale à l'Habitat et qui nous avait en tout cas en offre présenté une liste des biens de l'État spoliés par des individus que nous avons pu garder quand même de manière aussi secrète. Aujourd'hui, ce qu'il avait mis là-bas, ils savent des raisons pourquoi on l'avait aussi écarté en tant que secrétaire général, parce qu'ils détiennent des éléments que nous demanderons d'ailleurs à KG et à d'autres de contacter. Merci beaucoup, Félicien. Alors, on revient à vous, Maître Georges Kapiamba. Vous avez suivi les uns les autres. Quelle est votre réaction?
Je commence d'abord par remercier tous les intervenants. Et je voudrais quand même aussi rappeler à l'intention de vos auditeurs, parce que cette émission sert aussi de pédagogie, qu'il existe dans notre pays un décret-loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Mmh. Et les gens devront savoir que parmi les agents publics de l'État, l'article premier dénombre ces agents publics jusqu'au numéro 17. Mais nous pouvons citer les plus importants parce que ce sont eux qui sont concernés généralement par le détournement des biens de l'État. Vous avez sont agents publics de l'État. L'article premier, notamment le président de la République, chef de l'État, est un agent public de l'État. Les membres, tous les membres du Parlement, les membres du gouvernement, les magistrats des cours et tribunaux, les ambassadeurs, les personnels politiques, même les personnels politiques et administratifs des cabinets. Alors, ce qui est important, c'est lorsque vous prenez l'article 15 de ce décret-loi, il dit ceci, dans l'exercice de leurs fonctions, les agents publics de l'État doivent éviter de faire usage des ressources et de faire usage abusif des ressources publiques, tant matérielles que financières. Et l'article 16 dit, l'agent public de l'État doit s'abstenir de toute pratique contraire à la morale et à l'éthique, notamment la corruption, la concussion, le détournement de la main d'œuvres ou des biens et deniers publics de l'État. Donc, toutes ces personnes qui sont concernées aujourd'hui par la question de détournement des biens publics savent très bien que cela leur est interdit. C'est la raison pour laquelle vous sentez aujourd'hui que les Congolaises et Congolais sont remontés en constatant que les gens qui ont assumé ces fonctions, qui ont la charge de faire respecter même ces codes de bonne conduite, ce sont ces premiers à les violer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il faut ramener ces gens au civisme. Parce que lorsque quelqu'un, vous êtes ministre, vous êtes à la fin de vos mandats, vous prenez les véhicules et les biens, même à emporter la moquette, comme certains cas ont été signalés, même des bureaux, des tables, machines de bureau, ça veut dire que vous êtes un incivique. Vous n'obéissez pas aux règles du civisme. Donc, vous voulez tout simplement appauvrir le patrimoine de l'État, de sorte que celui qui va vous remplacer soit en difficulté de fonctionner et donner le meilleur de lui-même et vous obliger l'État à dépenser encore par rapport au même bien. Alors, il y a quelqu'un qui a posé des mandakas, des questions précises sur le palais de marbre. À ce que je sache, tout le monde nous savons qu'il est de notoriété publique que le palais de marbre aujourd'hui fait partie du patrimoine de l'État. Parce qu'il y a eu une occupation successive et sur une longue durée de cette concession par des agents publics de l'État, en commençant par Mobutu jusqu'à ce jour. Donc, personne alors ne peut prétendre être devenu propriétaire de ces biens.
Et il revient oui, Maître Georges, mais à l'époque, on évoquait les noms de Ndélé, qui était le propriétaire de cette concession, qu'on appelle Palais de Marbre, ancien gouverneur de la Banque Centrale.
Oui, mais les biens peuvent avoir appartenu à un privé que l'État, là, par exemple, expropriait. Mmh. Si l'État a exproprié un privé, il revient au privé de pouvoir poursuivre la récupération de son bien. Mais entre-temps, c'est l'État, ce sont les agents de l'État qui doivent continuer à l'utiliser. C'est pas parce que ces biens auraient été expropriés d'un privé que vous, agents de l'État, vous venez, je ne sais pas d'où, du coup, vous dites non parce que ça appartenait à un privé et moi,
voilà, il y a une précision de taille parce que cette concession ou cette maison a été construite pour abriter la résidence officielle du gouverneur de la Banque Centrale. Donc, à l'époque, Ndélé, en tant que gouverneur, occupait cette maison à ce titre-là. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, les gens pensaient que c'était son bien privé.
Donc, il avait transformé ça en bien privé.
Donc, il avait spolié les biens de l'État.
Il avait spolié et c'est logique que l'État soit rentré dans ses droits en les récupérant. Donc, jusqu'à ce jour, tous les Congolais, nous devons rester vigilants pour empêcher quiconque de vouloir les détourner, c'est-à-dire les transformer en biens privés. S'agissant de la résidence GLM, je sais qu'il y a eu des débats et ça continue jusqu'à ce jour. Est-ce que l'État avait-il déjà exproprié les biens GLM dont on sait que GLM appartenait à un privé? Ça, il faut rechercher. Mais il se pose un problème aussi d'éthique. À partir du moment où un agent de l'État avait occupé les lieux en tant que lieu, une résidence officielle, et que s'il était établi que pendant cette occupation, l'État a eu soit à payer pour cette occupation des loyers, l'agent public ne peut pas, par le fait de l'occupation, l'acheter, se transformer en propriétaire. Là, il viole automatiquement les codes de conduite de l'agent public que je venais d'évoquer ici. Mmh. Donc, sur ce dossier, nous pensons que les autorités du pays doivent s'y pencher et dire à la population quel est actuellement le statut de l'immeuble GLM qu'occupe jusqu'à ce jour l'ancien président Joseph Kabila. S'agissant de l'avion présidentiel, je pense qu'il n'y a plus de débat là-dessus parce qu'il n'y a pas très longtemps, lorsque le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a fait son voyage au Sénégal, nous l'avons vu tous, je crois, si je ne me trompe pas, au Sénégal ou en Nairobi, nous l'avons officiel. Vu utiliser cet avion. Pourquoi ne continue-t-il pas à l'utiliser? Il faut poser la question au service de son protocole. Peut-être que l'avion doit passer aux opérations de check-up. Vous savez que les biens de l'État sont généralement abandonnés sans subir des entretiens à des délais qui sont prescrits. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Mais je pense que personne ne peut penser aujourd'hui de tourner cet avion présidentiel et les Congolaises et les Congolais, nous devons nous y opposer. Voilà ce que je pouvais réserver comme réponse à ce niveau, mais tout en insistant sur le fait qu'il est important que nous nous battions tous pour faire adopter la loi sur l'accès à l'information. Parce que cette loi va nous permettre, nous les citoyens et les citoyennes, à pouvoir rechercher et obtenir sans limite et sans obstacle toutes les informations en rapport avec tous les biens publics, avec sur leur usage et éventuellement la destination frauduleuse à laquelle certains agents publics auraient donné aux 10 biens et nous permettre ainsi de les faire récupérer avec le concours de la police ou de la justice.
Voilà, nous entamons le dernier quart d'heure de cette émission. Nous vous gardons en ligne encore, Maître Georges Kapiamba, le coordinateur de l'association pour accès à la justice, l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. On va accueillir Franck qui est à Vienne en Autriche et puis Bati à Kinshasa. Franck, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour mon ami Jean, bonjour à l'invité, bonjour mes amis qui se sont déjà exprimés.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Et merci beaucoup. Par rapport à ce qui est déjà dit, j'ai trois petits points pour rapport. Le premier, c'est la contrainte sur l'application des lois par rapport à tout le monde sans exception. Le deuxième, c'est son extension et son application vis-à-vis de tous les citoyens congolais. Et le tout dernier, le troisième, c'est quelques efforts que notre appareil judiciaire devait de faire. Mon ami Gilles, comme tout le monde a déjà exprimé ses voeux, un État qui se veut démocratique, souverain et État de droit doit placer le respect de la loi au-dessus de tout le monde, sans exception, sans nuance. Donc c'est tout le monde, c'est tout citoyen congolais qui doit se soumettre aux lois de la République. Et partant de ce dont on est en train de parler, si l'ancien président de l'Assemblée provisoire de Kinshasa pensait bafouer abusivement les lois de la République, c'est un exemple éloquent qu'il soit déféré devant les instances judiciaires pour s'expliquer par rapport aux forfaits dont il est le responsable. Là, je vais directement passer au deuxième point, l'extension et l'application des lois par rapport à tout le monde. Mais je crois que par rapport à ce que nous savons chez nous, on doit aussi éviter de dénoncer les uns et protéger les autres. Pourquoi je le dis? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de cas de dénonciation, de malgouvernance, de détournement avec des preuves à l'appui qui ont été faits, prouvés. Mais jusqu'ici, on n'a jamais vu nos juges ou nos magistrats se mettre derrière ces gens. En guise d'exemple, si vous me le permettez, je peux encore répertorier quelques cas. Il y a le cas de FPI, il y a le cas de la RVA avec la traçabilité de GoPass, il y a le cas des passeports congolais, il y a le cas de l'ONATRA, mais il y a aussi le cas du dossier des fibres optiques. Je crois que quelque part, nous, citoyens congolais, on est aussi en droit de savoir qu'est-ce qu'on fait de tous ces accords-là. Ça ne suffit pas de nous dire qu'on a fait des accords avec telle société, mais on doit aussi avoir les impacts sur les équipes quotidiennes. Si je vois, par exemple, la qualité de l'Internet, la qualité de la connexion qu'on nous donne là, si je vois un peu ce qui se passe là, mais on doit quand même se poser des questions. Où est la traçabilité de tous ces fonds qui sortent des caisses du trésor public? Et le tout dernier point, le troisième, une interpellation par rapport à notre pouvoir judiciaire. Un pouvoir judiciaire, notre pouvoir judiciaire gagnerait en crédibilité s'il peut également étendre sa curiosité et son attention à tous les dossiers. Il doit éviter d'être sélectif si ça concerne telle qualité de tel regroupement, là on va bondir, mais si ce sont les autres, on laisse les histoires pourrir, personne ne veut en parler, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau de la justice. Donc il y a des histoires qui se passent là, mais parfois on ne veut pas vraiment les aborder parce que ce sont des oignons internes. Et je crois que tant que notre justice se soumettrait à plusieurs vitesses, elle ne gagnerait jamais en crédibilité. Le pas qu'elle vient de franchir en mettant déjà un président de l'Assemblée provinciale aux arrêts, c'est éloquent. Mais on doit encore faire plus. On serait content si, par exemple, on peut expliquer au peuple congolais comment a été la gestion des fonds des FPI, comment a été la gestion des fonds de l'OGFREM, les GoPass, les passeports congolais, l'ONATRA et aussi les histoires des fibres optiques. Il y a tellement de dossiers dont on doit donner des explications claires aux citoyens, mais quelque part, on veut enterrer tous ces dossiers-là parce que les concernés sont des gros poissons. Est-ce que maintenant, on peut parler d'une bonne justice qui dénonce seulement une catégorie, une qualité de citoyen et qui épargne les autres? Voilà des questions que moi je me pose personnellement de l'extérieur du pays.
Voilà, donc vous souhaitez que la justice aille plus loin dans cette démarche, au lieu de se limiter qu'à Roger Tsingy pour juste des véhicules. Il y a autre chose, il y a ceux qui ont détourné de l'argent pour la fibre optique, il y a autre chose au niveau des Logefrem, il y a autre chose au niveau des Lonatra, il y a autre chose dans plusieurs entreprises. Donc on aille un peu plus loin, qu'on sente que ce n'est pas une affaire de ceux qui sont considérés comme petits parce qu'ils n'ont pas d'appui, parce qu'ils n'ont pas des gens qui peuvent les protéger, et on laisse les autres là qui constituent une caste. Merci beaucoup Franck de Vienne. Bathier, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Bathier, vous êtes avec nous? Voilà. Alors, je reviens à vous, Maître Georges Kapiamba. Oui. Voilà, vous avez suivi quand même l'intervention de Franck aujourd'hui. Là, ça remet encore sur la table débat autour du monitoring que fait aujourd'hui les différentes organisations des droits de l'homme, de la justice comme vous, que vous faites, parce qu'à l'époque, il y a eu réellement des gens qui ont dénoncé, notamment Luzolo Bambi, qui a évoqué à l'époque le cas des Kulun en cravate, la liste des gens qui ont détourné les 15 milliards. Voilà, donc tout ça, ça relance les débats. Pourquoi le silence des côtés de la justice?
Alors, vous savez, je partage totalement la préoccupation de notre compatriote et nous ne cesserons aussi de le dire. Nous avons déjà eu à discuter avec les responsables, les plus hauts responsables de la justice de notre pays, ceux qui ont comme mission et ceux qui sont payés, entretenus avec l'argent du contribuable congolais pour faire ce travail, mais ils ne le font pas. Bref, la situation difficile dans laquelle se retrouve la RDC aujourd'hui a entre autres, comme cause, c'est les dysfonctionnements de la justice. L'absence réelle d'engagement des acteurs de la justice à mener leur action conformément aux lois de la République. Notre compatriote a évoqué tout un tas de dossiers qui ont toujours retenu l'attention de nous tous et qui continuent à tarauder chacun les esprits de chacun de nous pour nous dire, mais finalement, nous sommes dans quel pays où on peut, à un moment donné, s'accommoder des pratiques du genre où on dit on a dépensé, on a sorti de la caisse de l'État plus de 300 millions de dollars parce qu'on nous a vanté qu'on allait acheter, installer une fibre optique devant servir les Congolais en Internet à haut débit et que nous pourrons rivaliser avec nos amis sud-africains, avec les Européens. Mais jusqu'à ce jour, ce que nous vivons, c'est le contraire de tous ces faux discours. Et la justice est là, elle s'endort. Pour quelles raisons la justice ne peut pas se réveiller? Les médias ont écrit, les gens ont pris leur courage pour démontrer clairement que l'argent qui était affecté à acheter les matériels appropriés a été, si pas dans son entièreté, mais en grande partie détourné au profit des individus. La justice n'a rien fait. Il en est de même de ce que notre ami a parlé de la perception de GoPass. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Il y a eu des révélations sur le détournement de toutes ces recettes. Les aéroports de notre pays sont dans l'état où ils se trouvent. Vous aviez vécu dernièrement entendu les cris d'alarme pour l'aéroport de Bipemba Mbujimayi. Alors que cet aéroport permet aussi à contribuer à l'encaissement des recettes de paiement de GoPass. Mais on avait entendu le gouverneur de la province demander au gouvernement central de l'aider à réfectionner cet aéroport. Mais à quoi a servi cet argent? Que les Congolais et les Congolaises qui prennent leur avion là-bas pour aller à gauche et à droite payent, si pas pour contribuer à l'entretien de cet aéroport. Rien n'a été fait, la justice est restée toujours silencieuse. Donc bref, aujourd'hui, si nous connaissons cette déliquescence, même des valeurs dans la gestion de l'État, si aujourd'hui même le code de bonne conduite de l'agent public ne connaît pas de respect, d'application et que les fauteurs ne sont pas inquiétés, c'est parce que la justice n'agit pas. Il est plus que temps, et c'est ça que nous pensons à la CAJ, il est plus que temps qu'on puisse repenser. Repenser ne veut pas dire qu'il faut encore engager d'autres réformes. Dans les domaines secteurs de la justice, notre pays a réalisé de meilleures réformes, plus même que d'autres pays africains. Mais tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes capables de pouvoir utiliser ces instruments, les fruits de cette réforme, pour pouvoir aider l'État. Parce que nous devons le dire sincèrement que dans ce secteur de la gestion publique, des affaires publiques de l'État, la justice n'aide pas l'État. La justice n'aide pas la population, alors que c'était ça sa mission. Donc, nous devons continuer tous à faire pression sur les dirigeants politiques pour que ceux qui ne sont pas capables aujourd'hui d'accomplir comme il se faut leur rôle, leur fonction dans le secteur de la justice puissent être mis de côté et que d'autres Congolais qui sont animés par la volonté de servir réellement en toute indépendance la République en sévissant contre tous ses anciens mandataires, les anciens membres du gouvernement, les agents publics de l'État qui se sont permis de s'approprier des biens de l'État, qui ont détourné des fonds publics. Vous savez que quand vous allez même à la SNCC, c'est le même problème. Nous avons des gens pour lesquels des montants importants ont été même déboursés par la Banque africaine, la BAD, même la Banque mondiale, pour aider à payer ces agents. L'argent a été détourné. Et la justice que nous avons eu à saisir, ça fait plus de 10 ans. La justice n'a jamais posé un seul acte d'instruction. C'est inacceptable.
Merci beaucoup, Georges Kapiamba. On va écouter en dernier donc Claudel de Lumbashi et puis Marcel Alouisa. Claudel, vous avez une minute et Marcel, bêmement, vous avez aussi une minute. Claudel, quelle est votre contribution?
Juste pour corroborer ce que M. Kapiamba a dit, en disant, parce que j'ai entendu quelqu'un rappeler le fait qu'à l'époque du président Tshisekedi, les gens avaient retourné les véhicules. Mais ils avaient retourné quand Tshisekedi est passé, c'est pour la première fois. Les deux autres fois qu'il est passé premier ministre, il n'y a personne qui a remis, parce que ceux qui avaient remis, ceux qui n'avaient pas remis, se sont rendus compte que ceux qui avaient remis avaient perdu, ceux qui n'avaient pas remis n'avaient pas été poursuivis. Donc, tant que la justice ne poursuit pas ceux qui ont des biens, il n'y a rien qui changera.
Merci beaucoup, Claudel. Alors, Marcel, on termine avec vous. Vous êtes à Louisa.
Merci.
Voilà, malheureusement, on ne saura pas. Écoutez l'intervention de Marcel de Louisa, 081-890-63-30 ou encore le 081-890-49-69 pour votre intervention dans cette émission.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Voilà, Maître Georges Kapiamba, on va terminer avec vous, mais juste pour connaître un peu l'état du dossier, est-ce que Roger Tsingy est détenu ou il est déjà condamné?
Non, Monsieur Roger Tsingy était prévenu. Il est en détention préventive parce que le parquet continue à instruire, à réunir les éléments de preuve susceptibles de lui permettre de le faire condamner. Donc, il n'est pas encore condamné parce qu'il n'est jamais passé devant un juge pénal jusqu'à ce jour. Et je voudrais ajouter en disant que, hier, vous savez, ce dossier est important et je félicite vraiment la Radio Kapi d'avoir organisé cette émission. Nous avons des éléments probants et authentiques, établissant que même certains membres du pouvoir judiciaire se sont rendus coupables de l'utilisation des biens de l'État. Quand vous allez à Lubumbashi, pour ceux qui ont vécu à Lubumbashi, qui vivent, ils savent que le pouvoir judiciaire, la justice, avait un patrimoine immobilier important. Mais ces immeubles n'existent plus. Qui en sont bénéficiaires? C'est principalement certains magistrats qui ont eu à utiliser leur position pour organiser des procédures qui les ont permis à devenir propriétaires. Alors vous comprenez, à partir du moment où ceux qui ont le pouvoir de surveiller, d'assurer les rôles des gendarmes de la protection des biens de l'État.
Si elle
se transforme déjà en spoliateur, et complice de ceux qui volent les biens de l'État, il n'y a plus de place pour protéger.
À suivre également, parce que nous avions été plusieurs fois dérangés par les étudiants de Révérend Kim, qui tenaient à ce qu'on puisse faire également cette émission, où il y a quand même des personnalités galonnées qui occupent des maisons à la Gombe, des maisons de l'État. Voilà, donc je crois que Maître Georges, vous nous aiderez aussi à avoir la liste qui sera rendue publique pour que nous sachions qui doit quoi à l'État congolais.
Absolument.
Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission, Maître Georges Kapiamba. Nous, vous êtes le coordonnateur de la CAJ et merci à tout l'ensemble de la population qui a, donné l'intérêt à ces débats citoyens. On prend rendez-vous avec tout le monde donc demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.